Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque samedi, nous plongeons dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bienvenue dans toute une vie. Jusqu'au 14 juin prochain, la Fondation MAG rend hommage à Jacques Monory à travers la première exposition monographique depuis sa disparition en 2018. Intitulée simplement Jacques Monory, l'exposition présente 60 ans de carrière et revisite l'œuvre de cette figure majeure de la figuration narrative, constamment tendue par la modernité et par la singularité de ce bleu qui l'a rendu célèbre. Aujourd'hui, Marc Vaudet et Laurent Polleret vous présentent Jacques Monory, 1924-2018, toute une vie de peinture sentimentale.
Je suis peintre, alors évidemment, c'est un truc pas mal pour se débarrasser de sa réalité, de ses cauchemars. Mais j'ai pu aussi m'exprimer en écrivant un bouquin, des textes, j'ai fait des petits films. C'était exactement la même chose. Hein. Ce que je disais était vraiment la même chose, mais pas avec le même truc, quoi. Mais la peinture, c'est vraiment là où je suis le mieux, où je me sens le mieux. Et c'est très bien, parce que il y a tout un truc dans la peinture qui est vraiment pas mal. C'est physique quand même et c'est mental. Ce qui n'est pas dans l'écriture, où c'est seulement mental. Et il y a quelque chose de très mystérieux dans la peinture, c'est que j'ai volontairement et consciemment employé la peinture à des fins explicatives de ce que je ressentais du monde. Et petit à petit, la peinture devient autonome. Elle compte, ça s'épaissit, c'est moins photographiste, c'est-à-dire que la peinture a une sorte de vie propre et je me laisse plus aller à elle ou plus j'ai plutôt envie d'aller à elle. Peut-être que je suis fatigué, que j'en ai marre, que je m'en remets à la peinture. À un moment, je pensais que la peinture pouvait aussi avoir un impact social, qu'elle pouvait, non pas du réalisme socialiste dans la peinture, mais que de peindre, ça pouvait faire partie du changement du monde. Peut-être que ça le fait encore, je ne peux pas dire maintenant. Mais pour moi, je m'en balance, ça va. Je ne veux pas sauver le monde, moi, je veux me sauver. Moi, j'ai que moi à m'apporter le monde, hein, j'ai du mal à le toucher. En fait, il me fait peur et je ne l'aime pas, la plupart du temps, je ne l'aime pas. Et évidemment, c'est un rapport. La haine est un rapport très humain, très, très affectueux, si je peux dire. Mais ce que j'ai sous la main le plus possible, c'est moi-même. Alors je fais avec moi-même parce que le temps est court. Et comme il est de plus en plus court, je veux perdre de moins en moins de temps avec des choses que je ne trouve pas essentielles.
Monory est un peintre dont l'œuvre...
Jean-Christophe Bailly.
Un côté autobiographique très très prononcé, ce qui est assez rare en fait, parce que c'est autobiographique au sens le plus strict, avec disons comme une espèce d'album d'images qui accompagne sa vie, mais en fait c'est au présent, donc il y a assez peu d'images qui reviennent sur un passé lointain, et dans ses écrits quand même il y a des allusions en effet à son enfance, notamment un très beau texte qui s'appelle Angèle, qui était le prénom de sa mère. Et il aimait pas trop parler de son enfance, mais il se trouve que moi, pour des raisons de pur hasard, donc je sais des choses sur son enfance. En effet, il aimait pas l'école. Ça l'ennuyait profondément. Et assez vite, il a été, à la sortie de l'enfance, il s'est dirigé vers une école d'art appliqué, qu'il a faite d'ailleurs. Mais son enfance, c'était assez particulier quand même, parce que c'est l'enfance dans les quartiers à Montmartre, où habitaient ses parents, dans un tout petit appartement que j'ai très bien connu, parce qu'ils n'ont jamais bougé de là véritablement, au 6e étage, et c'était en face des studios Pathé, là où il y a la Fémis aujourd'hui. Ça a dû compter, je pense, que jeune garçon, enfant même, il voyait manipuler les décors, tout ça. C'est là qu'ont été tournés quantité de films dans les années 30. Et également, il y avait la particularité que son père, alors là, ça le fatiguait un peu parce que son père était un personnage très, très abondant, vivant et original. C'était un aventurier. Il avait été un aventurier. C'est un homme qui était né en Argentine, d'ascendance française, mais né en Argentine, argentin donc, et qui était venu en France pendant la Première Guerre mondiale, puis qui était resté, qui avait été chauffeur pour des ambassades d'Amérique latine, parce qu'il parlait très bien espagnol. Il avait un côté très tango, quand même, avec la gomina et tout ça. Et il avait épousé cette femme, petite main, enfin, qui très vite est devenue couturière à façon, à la maison, quoi, et qui faisait des habits pour des femmes plutôt de la bourgeoisie qui venaient essayer chez elle. Et puis cet homme, son mari, donc il a participé très activement à la guerre d'Espagne et il était un militant communiste, mais très c'était un nanar et avec une capacité de récit et de assez extraordinaire. Il racontait très très bien et c'était une pour la première moitié du siècle en tout cas véritablement un témoin tout à fait original et singulier qui avait été là à beaucoup d'endroits, y compris en Russie au moment de la guerre civile après la Révolution, enfin, etc. Et donc, l'enfance de Jacques, avec ses deux parents, un père bruyant, disons, et une mère silencieuse, je pense que c'est surtout une enfance extrêmement rêveuse, quoi. Mais il y a cette rencontre avec l'histoire, donc forcément au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la sortie de là qu'il termine ses études à l'école d'art appliqué et puis qu'il se lance dans la vie. Voilà.
J'ai passé mon école communale avant-dernier de la classe, tout le temps, jusqu'au certificat d'études où normalement j'aurais même pas pu l'avoir. Je me tapais froidement 20 fautes dans une page. Mais comme il y avait un instituteur vraiment gentil qui m'a aimé, donc j'ai aimé. Et alors, pour lui faire plaisir, je n'ai fait que 4 fautes et demie. Comme ça, j'ai pu passer mon certificat d'études. Ça, c'est un joli souvenir qui s'attache à Montmartre. C'est qu'il avait une maison qui, à mes yeux, était extrêmement chic. Parce que la mienne n'était pas très chic. Et il avait même l'ascenseur, ce qui était vraiment pas mal. Et elle était en pierre de taille. Et elle était bien située parce qu'elle était en haut de Montmartre. Il y avait du ciel, c'était bien. Et il faisait de la peinture et c'est lui qui m'a donné envie de peindre et qui m'a fait peindre et qui m'a envoyé dans des écoles de peinture, etc. Et je peignais avec lui. Là, il y a quand même le ciel de Montmartre, un peu, le ciel qu'on voyait. Il y a cette maison qui était pour moi chic parce qu'il y avait de la moquette. Et le super du chic, c'est qu'il se lavait les cheveux au savon de Marseille tous les jours. Il avait des beaux cheveux noirs et il y avait une odeur de savon de Marseille que je trouvais vraiment merveilleuse. Ça mélangeait à l'huile de lin. Alors je me suis dit, être peintre, c'est rudement bien. Il adorait Matisse et Bonnard. Ben, moi, je me suis éloigné.
Ben, on était jeunes.
Sarah Moon.
Je connaissais Alain Jouffroy, Hérault, Pomerol, dans ma jeunesse. C'était vraiment le moment où j'ai rencontré Robert Delpierre. Et j'ai connu Jacques à ce moment-là, à des soirées. Je le connaissais dans l'ensemble. Et Robert Delpierre achetait des pinceaux qui peignaient aussi des toiles. Et il a rencontré Jacques chez le même droguiste et qu'il avait effectivement acheté une peinture de Jacques. Et à partir de ce temps-là, donc moi je ne les connaissais pas, ils sont devenus amis. Et ce n'est pas un moindre mot. Monory, c'était pas un causeur. Il n'était pas du tout hableur. C'était quelqu'un de très fin. Timide, je ne sais pas si c'était timide, parce qu'il avait toujours ce sourire, effectivement, incroyablement émouvant. Et cette attention aux gens, et cette gentillesse, qui n'avait rien à voir avec aucune forme d'arrogance, quel que soit le succès qu'il a eu. C'est toujours plus énigmatique, les gens qui ne se livrent pas autrement que dans leur travail. Mais dans son travail, il dit beaucoup de choses.
La tonalité bleue des compositions donnait aux scènes évoquées une sorte de perversité maléfique, comme si ce monde pétrifié sous le gel d'une couleur unique ne laissait qu'un seul choix, être le meurtrier ou la victime. La sensation prégnante de baigner dans un secret faisait d'une certaine façon comprendre la manière dont le peintre, tout en pourchassant des éléments d'une affectivité sentimentale et subjective, cherchait à se rendre maître de l'illusion picturale, allant jusqu'à souligner l'exil des images dans l'espace de la toile. L'image fixe lui permet de traiter de la nostalgie de l'image mobile. Ses narrations emprisonnées dans le bleu disent son goût des techniques romanesques qui sont celles d'un roman noir, plus attaché à traiter des tensions qui opposent l'individu à son environnement immédiat qu'à conclure une enquête. En 1974, à l'occasion d'une exposition personnelle au Centre national d'art contemporain, Monory présentait les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables. Le ton de sa peinture avait changé. Son rêve sur le rêve, impliquant des jeux de miroir, laissait place à une réflexion sans doute clairvoyante, mais également désabusée sur l'état des sociétés dites avancées. Je ne peux affirmer avoir toujours vu Jacques Monory avec un large chapeau, tel qu'en ont porté avant et juste après la guerre les dandys ou les mauvais garçons dans les productions hollywoodiennes. On dirait qu'avec Monory, la réalité même doit être corrigée pour qu'elle ressemble aux intrigues romanesques, du moins à quelque chose qui est la beauté de l'artifice. Peindre avec des lunettes noires, c'est ce qu'il avait trouvé pour régler ce problème, pour retrouver cette lumière assombrie des salles de cinéma ou celle des incertitudes de l'aube. Avec ses lunettes noires, peut-être voyait-il les formes inscrites sur ses tableaux comme des présences virtuelles, incertaines, susceptible de disparaître à tout instant. Anne Tronche, Jacques Monory, Les Meurtres.
Énigmatique, mystérieux.
Solerais.
Secret, mais en même temps un petit peu moqueur, avec toujours une espèce de distance, de dérision, je trouve. Et il était beau, calme, très calme. On avait l'impression que soit ça se faisait naturel, soit il n'y avait rien à faire ou ça ne se faisait pas.
Vous disiez quoi? Aliéné? Oui, on peut. Et je disais qu'on ne peut pas sortir de cette aliénation. Et si on veut en sortir, on tombe dans un vide où il n'y aurait plus que le suicide.
L'endroit où il aimait le mieux être, c'est l'atelier, ça c'est clair. Par exemple, lorsqu'il était en vacances, assez vite il s'ennuyait, quoi, et il rêvait de revenir à Cachan. Cela dit, il y avait une assez forte ritualisation de sa vie, et il y avait deux choses qui ont énormément compté, qui sont la natation et le tir. Pas tous les jours, mais très très fréquemment, il allait nager, faisait des longueurs dans des piscines. Et également, une ou plusieurs fois par semaine, il allait dans des stands de tir pour s'entraîner au tir au revolver. Donc avec tout ce que ça comporte, il faut s'inscrire, il faut avoir une autorisation de port d'armes. Un des tout premiers livres qu'il m'ait prêté, un livre qui est peut-être moins pratiqué aujourd'hui qu'il ne le fut à un moment, qui s'appelle « Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc », qui est un livre écrit par un Allemand qui a été converti au Zen et qui raconte ce qui se passe quand on apprend le tir à l'arc dans l'optique des moines zen. Et il parlait du tir au revolver exactement dans cette optique-là, c'est-à-dire comme une discipline intérieure. Je me souviens très bien qu'il m'avait expliqué que lorsqu'on presse sur la détente d'un revolver, c'est absolument pas... On n'est pas du tout, alors là, dans le registre du meurtrier ou du policier qui abat, qui tire en direction de quelqu'un qui s'échappe, on est dans une logique de strictement intérieure. Et il m'avait expliqué que c'est comme de presser très lentement un citron. À un moment donné, la balle part, et que si la chose est réalisée au mieux, on atteint la cible, pile. La visée doit cesser d'être intentionnelle. Là, il y a tout un travail formidable. Alors, ça, philosophiquement, ce serait intéressant de creuser ça par rapport à l'effacement de l'intention. Mais c'était une discipline comme ça. Et je pense que dans la natation, de façon peut-être moins intense, parce qu'il y a un côté aussi de tenir à entretenir son corps, de faire, de pas un certain refus de la déchéance, c'est peut-être trop dire, mais disons, de la légère dégénérescence physique, parfois plus du tout légère, qui accompagne le vieillissement. Il y avait un refus de ça très clair, donc ça fait partie de ça aussi. Et puis, il n'y a pas que l'Extrême-Orient, il y a, une dimension très forte de la philosophie antique qui intéressait Monory, c'était le stoïcisme. Alors on pourrait mettre le tir du côté zen et la natation du côté d'un certain stoïcisme. Et là, on obtient des variables de comportement à l'intérieur duquel il glisse son rêve. L'homme qui nage en silence le matin, comme ça, dans des piscines un peu encore assez vides, et puis l'homme qui va tirer dans un stand, comme ça, c'est le même. Hein. Et le peintre, c'est le même. Mais un même qui se démultiplie d'une certaine manière en figures, en personnages, qui sont des personnages de roman, presque. Et le cœur du roman, c'est évidemment l'atelier. Donc il y passait énormément de temps. Et d'une certaine façon, l'atelier était aussi hors les murs, parce que, justement, quand il allait au cinéma, il prenait son Leica dans l'idée que peut-être, à un moment donné, il allait y avoir quelque chose pour lui dans le film. Et s'il y avait quelque chose pour lui dans le film, clic, il prenait l'écran en photo, sachant d'avance aussi que, justement, il y a, avec le grain du cinéma, le grain du film, repris par le grain spécifique, d'ailleurs, du Leica, etc., il allait obtenir une qualité d'image très monorienne, d'une certaine façon. Donc tout ça faisait comme ça. Et puis, quand il promenait les chiens, parce qu'il avait ça aussi, le chien était là, les chiens. Il n'était pas absent à sa peinture. Et puis tout compte, évidemment, les relations privées, les relations intimes, les relations d'amour qu'il avait. Tout ça revient dans sa peinture. Donc au fond, il n'était jamais sorti de lui-même, tout en ayant rêvé d'une autre vie. Et ce rêve était, au fond, à même sa vie, quoi.
Ce qui me passionne dans le tir, ce n'est pas d'atteindre un but. C'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de la méditation, froidement.
14 août 1982. Jacques Monory m'appelle pour m'avertir que le tableau est terminé. J'ai envie de pleurer. La préparation de ce film avance. Je ne sais même pas avec quel acteur je vais le tourner. 15 août 1982. Je vais voir le tableau dans l'atelier de Monory. Il me propose 3 versions. Je choisis celle d'un soleil irradiant, intraitable. Sur une plaque miroitante longitudinale, le titre « Silence 1980 » est inscrit à l'envers. Je suis impressionnée que ce grand artiste ait composé cette œuvre sous ma suggestion, ou celle de mon roman. Il ouvre une bouteille de champagne. Je dis « Je suis perplexe sur le violet que je trouve discordant. Je peux le retirer si vous le souhaitez. Je vais réfléchir. Réfléchissez aussi de votre côté. » Il m'offre une lithographie composée après un voyage dans la Death Valley avec la dédicace « Pour Else et ses déserts ». Nous allons dîner dans une guinguette au bord de la Marne et nous parlons. Il dit « Je ne peins que pour être aimé. » « Cher Else, voici un ectachrome de votre tableau pour que vous puissiez être sûre de vouloir enlever le violet. Ne regardez pas le reflet de la tuyauterie dans le miroir. J'aime parler avec vous. Serais-je même un peu amoureux? Mais ne vous inquiétez pas, car je n'ai aucune sympathie pour les mœurs des punaises. Seulement un peu de musique. Ami. » Et de 4. Le producteur, l'opérateur, X, le peintre, tout cela, si mon scénario est tiré de mon roman, à cause de l'écrivain. Je me remémore les paroles de Monory. Un artiste doit vivre au bord de la catastrophe. Elisabeth Huppert, Le dernier homme de Sainte-Sara.
L'énigme dans l'œuvre de Jacques Monory, c'est aussi pour moi quelque part un détective, qu'il était à la recherche, peut-être un entre guillemets, un joueur aussi. Hein. C'était comme un... Il se prenait...
Valérie Favre.
J'exagère, mais pas un détective. Quelqu'un qui mettait en place des indices. Des indices, c'était ses œuvres. Des mises en scène, d'après des meurtres. Enfin, c'était, il a fait quand même quelques tableaux avec des pistolets, des trucs. Enfin, il y avait quand même une certaine violence dans ses choix d'objets. Des félins, enfin, bon, c'était pas non plus très, très bucolique. Et c'est un petit peu ce côté énigmatique du choix de ses sujets. Il y a derrière le tableau le masque... du peintre, peut-être, simplement. Comme Velázquez qui se peint quand il y a la cour des Ménines, Jacques Monory se peignait aussi. Il était également présent. Il y a quand même aussi, dans son travail, on le voit. Et il a fait des autoportraits, il est dans des voitures, enfin, il était là aussi. Donc c'est aussi très très intéressant de voir ça, et ça c'est aussi très énigmatique.
Le catalogue est argenté. De grandes lettres noires inscrivent un nom, Monory. Et à quelques millimètres en dessous, meurtre. Apparemment, le texte de présentation s'est détaché suite à mes nombreux déménagements. Il ne reste que quelques reproductions de tableaux rappelant l'exposition montrée en 1968 dans la galerie Blumenthal Maumaton. Sur la première d'entre elles, un homme portant casquette court devant des miroirs où des impacts de balles inscrivent le souvenir d'une violence. Anne Tronche, Jacques Monory, Les meurtres.
Quand j'étais à Cuba et resté si longtemps, ma femme a fichu le camp. Elle avait sûrement raison. Comme ça m'a quand même un peu froissé et peiné. Alors j'ai fait des meurtres. Donc Cuba est à l'origine des meurtres. Les meurtres que j'ai faits, c'était le début de ce que je fais toujours, une prise de conscience de ce que je voulais faire en peinture. Alors Cuba est un point pour moi important. C'est à partir de ce moment-là, de mon retour, que j'ai fait quelque chose de spécifique. Et c'est le commencement de la série de, qu'en rentrant, qui n'était pas basée du tout sur le plaisir et le respect et l'admiration que j'avais pour Cuba. Quand je suis revenu, j'ai commencé à peindre des meurtres.
Sa peinture est entièrement fondée sur une interrogation. Enfin, tous ses tableaux sont des points d'interrogation. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit le portrait d'un proche, que ce soit quelque chose qui est prélevé dans l'actualité, un événement particulièrement dramatique, par exemple un bonze qui s'immole, comme il l'a fait au moment de la guerre du Vietnam, que ce soit un magnifique paysage, que ce soit une référence culturelle comme le chevalier et la mort de Dürer, etc. À chaque fois, il brasse quand même des énigmes et des traces répandues un peu partout, qui sont comme des indices d'un roman dont ni lui ni aucun regardeur n'aura jamais la clé. Et donc cette présence au monde, c'est une présence à un monde mystérieux, quoi. Et la fameuse phrase de Shakespeare, là, c'est une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un fou et qui ne signifie rien. On pourrait presque croire que c'est une phrase de Monory. C'est, en tout cas, il la faisait sienne intégralement.
En ce qui concerne la matérialité de la peinture de Jacques Monory, le fait que les images soient très réalistes,
Laurence Dist,
très reconnaissables, on comprend qu'elles sont tirées de photographies, notamment, et le fait qu'il y ait effectivement, dans ce qu'elles s'en dégage, un certain vide qui paraît peut-être un peu contradictoire, parce que les images sont tellement reconnaissables, tellement décrites avec détail, que la présence de ce vide peut étonner. Et pourtant, il avait... c'est là toute la prouesse de sa peinture. C'est qu'il est très réaliste. Il est tellement réaliste que certaines de ses peintures sont quadrillées comme on pouvait le faire à la Renaissance, comme s'il fallait reporter tel carré de chair dans tel carré, le quatrième de la deuxième colonne, etc. Enfin, extrêmement bien ordonné, structuré, rien n'échappe. Et en fait, c'est dans la juxtaposition des images. Par exemple, dans Rêve numéro 2 de 76, donc c'est un tableau qui est assez grand, qui fait 1,80 m sur 2,60 m, qui est séparé en deux. Et vous avez dans la partie gauche la vue d'une mer un peu agitée, prise depuis un bateau. On sent qu'on est dans la mer, on n'est pas au bord de la mer. Et à droite, de façon très studieuse et quadrillée, vous avez une image qui est mise à distance derrière justement ce quadrillage, où vous êtes un peu voyeur d'une scène dans une salle de bain avec une femme nue, accroupie sur un tapis de bain et qui a la tête dans la lunette des WC, qui visiblement est malade, prête à vomir. Il y a une lampe aussi au plafond. L'ambiance est plus d'intérieur, hein, donc légèrement plus sombre, et vous prend quand même, face à la juxtaposition de ces deux images, un mal de mer, certain. Et donc en fait, il y a un malaise. Et ce malaise, il est dit dans un silence total. Il n'y a rien sur la mer, et on sent bien que cette femme, elle ne sait pas qu'elle est observée. Donc on est dans la pensée. Il a réussi avec le bavardage incessant des images dans lesquelles il était déjà noyé, et nous le sommes toujours, c'est toujours à peu près la même époque finalement, il a réussi à y mettre du vide. C'est-à-dire il a réussi à vider l'accélération de l'image, d'une littérature excessive, pour ne donner à voir ce que moi j'appelle le vide, effectivement, et qui est finalement beaucoup plus que ça. C'est justement une injonction pour nous dire « arrêtons-nous 30 secondes, regardons la vie telle qu'elle nous est offerte par la fenêtre et telle que lui la reproduit dans sa peinture. Elle est si proche de la réalité et à la fois elle en est si éloignée. » C'est ça qui est surprenant. Et c'est toujours, à mon sens, une façon subtile et très forte de dire « on parle le même langage, on habite la même planète et on vit la même époque. » Mais ce que moi je vois et ce que moi je ressens, est-ce que c'est comme vous ? Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de vivre finalement dans un monde où vous ne comprenez rien, où tout semble étrange, où on ne sait pas si c'est la vérité ou si c'est un mauvais rêve, et d'où vient ce malaise ? Et donc, il a réussi à vider la parlotte des images contemporaines et finalement à y mettre une réflexion. Il ne parle pas non plus beaucoup. Il réussit à juste y mettre un vide pour vous laisser votre réflexion.
Alors, en fait, c'est drôle parce que il est là. Il est donc en noir et blanc. Dans Eldorado, c'est pas du tout le bleu habituel. C'est presque un violet. Donc, il est tout à fait spécial, celui-là, parce qu'en plus, il n'a pas de cadre, il n'a pas de cadre dans le cadre. Il est d'un seul tenant, avec cette perspective explosée. C'est très, très étonnant. Et sur cet aigle, il est très menaçant. Il fait très peur. Mais c'est génial. C'est génial parce que c'est vraiment un mur, 3,50 m sur 1,80 m. Mais finalement, elle vous accompagne tout le temps. Vous l'avez partout, vos amis vous identifient à la peinture qui est sur ce mur d'une manière permanente. Vos enfants vous demandent des nouvelles d'Eldorado, c'est un ami, c'est une pièce maîtresse de la famille, une toile comme ça.
Philippe Marin.
On a travaillé avec Jacques Monory depuis toujours, mon père, et puis j'ai pris la suite. Et si vous voulez, on fournissait bien sûr des châssis, les toiles. Et puis on parlait à Jacques d'une couleur, bien sûr, de cette couleur. Et puis c'est Héro qui était à l'initiative et qui nous a dit « Mais bien sûr, Banco, il faut absolument fabriquer ce bleu et puis surtout le mettre dans notre gamme de couleurs à l'huile extra fine. » Donc devant vous, vous avez cette broyeuse tricylindre qu'on utilise pour la fabrication des couleurs à l'huile, c'est-à-dire qu'on mélange En premier, bien sûr, le pigment avec de l'huile. En l'occurrence, ce bleu-là est mélangé avec de l'huile de lin, qui a l'avantage d'être cicatif, de jaunir, mais comme c'est un bleu qui est très sombre. Si vous regardez les codes index qui sont indiqués sur le tube, vous voyez, le PB27, PB15, PG7. Donc c'est très proche d'un phtalo, mais à vrai dire, c'est surtout un bleu très sombre. C'est un bleu qui se rapproche du bleu de Prusse. Un vert phtalo, un PG7 qui le rend assez froid. Et ce bleu, à l'huile, a bien sûr l'avantage d'être très profond, mais Jacques Monory aussi l'utilisait, pas en transparence, pas en glacis, mais vous pouviez avoir toute une palette, on peut dire, dans ce bleu-là, à la fois de transparent, plus clair et plus sombre. Mais c'est un bleu dans notre gamme qui est donc un bleu, comme je disais, avec beaucoup de caractère, mais quelque chose de beaucoup plus sombre que l'outre-mer ou bien sûr qu'un cobalt. Donc c'est un bleu qui est très marqué. La sensualité des dernières années de la peinture de Jacques Monory, on sent cette vibration, cette sensibilité, elle est bien sûr encore plus vraie. C'est pas vraiment des glacis, mais il y avait beaucoup de transparence dans ce bleu Monory, dans la peinture de Jacques Monory. Et c'est aussi dû à la touche, effectivement, à la touche, mais il faut parler aussi des pinceaux. La réserve de couleurs, la sortie de la virole, la longueur du manche, comment il appuyait, si vous voulez, sur cette toile, l'absorption aussi, comment la toile répondait à la viscosité, à la pâte de cette couleur qui est donc broyée à l'huile de lin. Et c'est vrai que ces dernières peintures, c'était encore un autre Jacques Monory. Et c'était vraiment un grand artiste.
Si j'essaye de me souvenir des premières images qui m'ont vraiment touché, c'est un film qui passait à la campagne quand j'étais tout petit. C'était un cinéma ambulant. Et alors ils mettaient des voiles bleues pour la nuit et des voiles jaunes pour le jour devant la caméra. C'était magnifique. Et il y avait c'est une chose qui m'est vraiment restée. Il y avait un officier autrichien qui me semblait jeune. Moi, j'avais peut-être 7 ans et il me semblait jeune. Il devait avoir 18 ou 20 ans. Et il rencontrait une jeune fille dans un bois. Il y avait des croisées de chemin dans un bois et l'officier autrichien tout blanc venait voir cette jeune fille. Et ça, c'est une image cinématographique que je n'ai jamais oubliée. J'ai trouvé ça magnifique.
Ce bleu, il est aussi caractéristique que le bleu d'Yves Klein, hein, l'International Klein Blue, qui est bleu outre-mer. Le bleu Monory, c'est pas du tout ça. C'est très, très différent. Hein. C'est un bleu
Bernard Monino,
qui est mélangé avec un tout petit peu de gris. L'image, elle est éteinte, un peu comme presque cendrée. Et puis, il y a des moments où le bleu devient un bleu presque séraphique, ce qui lui donne cette possibilité. Tout en étant face à l'image, on fait l'expérience de la distance. D'ailleurs, il y a une chose qu'il avait dite après avoir terminé la série du ciel, c'est « j'expérais l'extase, je n'ai eu qu'un supplément de détachement ». Pour lui, la couleur n'est absolument pas utilisée comme l'ont fait tous les artistes coloristes, c'est-à-dire qu'ils jouent sur des accords de couleurs, on pense à la maestria matissienne. Hein. D'ailleurs, ça a été très très mal ressenti hein, dans le moment où il a fait ça. Je me souviens, c'est quand il a exposé cette série qui s'appelait « Technicolor ». Beaucoup de gens ont été très, très déstabilisés parce qu'ils ne retrouvaient plus peut-être ce qu'ils aimaient un peu trop facilement dans sa peinture. Hein. Et je pense que Jacques, il fait partie de ça. Moi, j'aime beaucoup les artistes qui cassent leur système. Bon, Picasso, mais Picabia est en un autre, Marcel Duchamp, un autre. C'est-à-dire des artistes dans lesquels leur travail, à certains moments, brise leur savoir-faire de façon à créer quelque chose. Alors d'ailleurs, il le dit d'ailleurs, je voulais que l'utilisation des couleurs, ce bleu acide, ce violet, ce bleu ou plus tardivement le noir dans la série des énigmes, il veut créer quelque chose de grinçant. Il faut que ça... Alors que les tableaux de la période, j'allais dire bleu, ils sont pas grinçants. C'est quelque chose qui... On est emporté dans un sentiment. Dans les Technicolor, il y a quelque chose qui... Ah. C'est comme quelque chose. Oui, il utilise d'ailleurs le terme. Je voulais que l'image devienne quelque chose d'acidulé et presque répulsif. Il y avait un côté répulsif dans l'utilisation de la couleur. Alors, c'est vrai que c'est une utilisation très, très originale. Hein. La couleur, c'est qui fait virer les couleurs, en fait, un peu. Hein. Un petit peu comme quand on met du citron dans du lait. Hein. C'est-à-dire tout de suite, tac, ça, le sentiment qu'on avait au début de suavité, il est complètement... il est détruit, quoi.
Lorsque Monory a rencontré Monory, d'une certaine manière, au début des années 60, quand il est passé à ce mode de figuration qui sera le sien, pas tout de suite, mais très très vite, il a installé la couleur bleue. Et la couleur bleue, le bleu Monory, comme ça, forcément, ça crée cette distance froide et sentimentale à la fois dans ce qui est montré, dans ce qui est peint. Il y a une forte coloration onirique de cela, mais il n'y a pas besoin que ce soit une image de rêve. Si on prend un bord de mer, si on prend une voiture qui est sur une autoroute dans une région un peu déserte, si on prend une vue de New York, etc., à partir du moment où il y a le filtrage, disons, du bleu monorien, eh bien cette image, elle bascule dans une dimension de rêve. Mais ça ne veut pas dire que c'est le rêve au sens du rêve tel qu'il a été exploré par Freud et bien d'autres analystes. Ce n'est pas ce rêve-là, ce rêve nocturne. Alors, rêve, c'est un mot, même pas un mot valise, c'est un mot camion. C'est-à-dire, on peut mettre tellement de choses dedans. Il y a une dimension de rêve au sens strict. J'ai vécu une autre vie, je rêve d'une autre vie. Et il y a cette dimension du double, en effet, où Monory se rêve comme un autre, donc ce personnage qui, au fond, échappe à tout. Et c'est le rêve, une fuite en avant, mais qui se libère des obstacles comme ça. Et c'est très, très présent dans de nombreux tableaux. C'est présent dans le petit film Ex, par exemple, où il court dans une rue. Je crois que c'est l'avenue Général Leclerc, tout bonnement. Il court, puis il tombe. Et puis, comme quelqu'un qui aurait été atteint par une balle, il se relève, il s'époussette et il repart sans courir. Il y a cette idée de au fond, je m'en sors, au fond, je vais toujours finir par m'en sortir. Donc il y a ce rêve-là. Mais il y a aussi tout ce qui le fait tomber, tout ce qui le menace, sous la forme spécifiquement incarnée du tir, ce qui lui tire dessus, mais aussi tout ce qui fait du monde même une sorte de menace permanente. Et là, c'est incarné à chaque fois par tout ce qui nous vient de l'histoire et de l'actualité. Et en effet, à ce moment-là, le rêve tourne au cauchemar. Mais c'est la même matière, comme un lait qui tourne, comme quelque chose d'organique qui tourne, comme on dit. Hein, c'est la même matière qui devient cauchemar. Et là, alors, il avait malheureusement l'embarras du choix. Il n'y a plus qu'à capter tout ce que procure l'actualité ou la mémoire récente. C'est pour ça qu'on va trouver dans son œuvre une image de Hiroshima, des images des bombardements au Vietnam et bien d'autres horreurs.
En fait, j'ai voulu échapper aux souvenirs, et je m'aperçois que c'est pas possible. Je perds la mémoire et je perds pas le souvenir, si on peut dire. Ce que j'ai voulu oublier, quelquefois, ça me revient la nuit. Donc je peux pas m'échapper de ces trucs-là. Mais, en tout cas, mon travail, qui consistait très longtemps à me servir, justement, de souvenirs, quoique je veuille les cacher par la parole, je voulais les cacher, mais dans ma peinture, c'était même un travail directement sur le souvenir, c'était pour le détruire, pour m'en débarrasser et l'oublier.
Il y a un tableau qui est particulièrement terrible, du point de vue du cauchemar, je pense, alors qu'il n'a pas l'air comme ça. C'est un tableau, d'ailleurs, qui a un titre allemand. Il s'appelle « Hilflosigkeit », qui veut dire « détresse », quoi, « détresse totale ». C'est là où il n'y a plus aucune aide possible. Je pense que ce mot venait de nos conversations aussi. Et là, il représente deux sortes de grands phoques qui longent le bord de mer. Ils vont parallèlement à la mer. Elle est là, à quelques mètres d'eux. mais ils ne savent plus la retrouver du fait de radiation. Enfin, c'est après une explosion atomique, je pense. Et ça a complètement perturbé leur possibilité de repérage. Donc, ils sont le long de leur élément et ils ne le retrouvent pas et ils vont mourir. Et là, voilà, c'est du cauchemar à l'état pur.
Je peins plutôt des choses dures, des choses réalistes, comme on dit, un accident, un meurtre, un suicide, ou même des voitures, c'est réaliste, pour aller vite, c'est réaliste, mais alors, comme j'ai le sentiment que cette réalité n'est qu'une illusion, instinctivement, j'ai fait ça en monochrome, et le monochrome le plus adéquat pour parler de l'illusion, c'est le bleu. Donc, ce bleu, associé à une image très réaliste, dit « mais voyez, la réalité n'est pas vraie ». C'est ça que ça veut dire, la réalité n'est pas vraie.
Souvent, il y a eu des erreurs sur la technique. On dit « acrylique sur toile ». Bon, en fait, non, il peint à l'huile. Et il peint à l'huile, et c'est d'ailleurs très très évident, parce que la façon dont il peint, surtout dans les tout premiers tableaux, je pense par exemple à « Partir ». La rencontre avec ce tableau, ça a été un choc visuel. Je me dis, mais il y a un homme qui fait des peintures comme ça. Et tout de suite, j'ai été victime du coup de foudre monorien, presque. Et alors, ce tableau, ça représente le visage d'un enfant avec les cheveux qui semblent recouvrir son visage, comme s'il y avait un coup de vent. Visage qui est plein cadre, comme ça. Et puis, dans la partie inférieure, il y a deux moments, deux instants du mouvement des vagues. Alors, le tableau, il est à la fois stupéfiant parce qu'il inspire une sorte d'une rencontre qu'on fait avec ce visage qui est très beau. Et puis, il y a quelque chose qui introduit la durée, la séquence de temps extrêmement courte entre deux mouvements de la mer, comme ça. Et ce tableau est pas très grand, hein. Il fait à peu près, je sais pas, 1 mètre par 90 centimètres. Mais cette œuvre, lorsque je l'ai revue, tout de suite, j'ai reconnu ce premier tableau qui m'avait tant séduit et qu'il avait peint. Et surtout, ce que j'avais pas vu, c'est que lorsque un tableau de Jacques Monory est reproduit, c'est-à-dire, il redevient une photo. Alors que quand on regarde de près sur le plan technique, on s'aperçoit que ça c'est assez bouleversant. C'est, on a appris que le tableau, il est fait en une séance. Et on voit tous les coups de pinceau qui sont, mais très très présents. Par exemple, la mèche de cheveux, on pourrait imaginer qu'il va peindre cheveux par cheveux. En fait, non, il peint d'un seul coup, il y a un coup de brosse, on voit les cheveux, les joues, le regard. Tout est peint dans une espèce d'envolée lyrique, comme les peintres pouvaient le faire au 19e siècle, comme je pense à Manet, qu'il aimait beaucoup. On voit que c'est une peinture qui est faite sans dessin préalable. Il y a un dessin, c'est au sens projet du terme, mais dans l'exécution, il y a quelque chose qui est littéralement aussi rapide que la façon dont le tableau pénètre dans notre regard. Il y a quelque chose qui est instantané et qui abolit le travail. C'est-à-dire, on voit pas le travail, on voit simplement la trace des gestes qu'il a fait pour réaliser ce qu'on a face à nous.
Il avait un vrai talent. Il avait un regard, de toute façon. Et c'est du noir et blanc, beaucoup. Ça lui ressemblait, les photos qu'il intégrait quelquefois dans ses peintures. Il projetait les photos, donc c'était un point de départ de l'œuvre. Mais ce n'était pas un photographe, c'est-à-dire ce n'était pas le but. Hein, le but n'était pas la photographie. Il photographiait ce qu'il concernait, ce qu'il voyait, ce qu'il touchait. Si c'est ça, la photographie. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre son regard de cinéaste, son regard de peintre et son regard de photographe. Que ce soit une photo ou une image ou un document, ou c'est le mouvement de la pensée qui crée l'objet définitif. Alors oui, il était peintre et il avait un regard cinématographique ou photographique qu'il insérait dans ses peintures. Quand on pense à tout ce qu'il a fait autour des peintures de film noir, je pense qu'il y a une relation comme ça entre la photo et la peinture, enfin entre ce qu'il choisit pour finalement réaliser une œuvre où tout était mêlé. Il dit, la peinture, c'est plus difficile. On recommence jusqu'à trouver la forme adéquate, alors que la photo, c'est un instant.
Alors, dans le travail de Jacques Monory, il y a d'ailleurs, parce que je ne sais plus dans quel entretien, quelqu'un lui pose la question de la honte qu'on lui a fait subir, d'ailleurs, à une période de l'histoire de l'art, où c'était honteux de faire de la peinture. Où c'était honteux, surtout encore plus, qui était plus grave, ça aggravait son cas, c'est-à-dire de faire de la figuration. Et en plus, faire de la peinture sentimentale, c'est-à-dire il cumulait les... Et c'est ça qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il y a une dimension transgressive, mais qui n'est jamais fait contre quelque chose. Il affirme toujours quelque chose qui est le manque. Ce qui l'a amené à la peinture, c'est un univers qui manquait à la peinture, c'est-à-dire ce rapport à la vie qu'on a, de manière assez perverse dans la littérature, associé à ce qu'on appelle l'autofiction. Mais Jacques ne fait pas l'autofiction, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours la construction d'une distance qui fait qu'il rend universel ce qu'il peint. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais au fond, c'est ma vie qu'il peint. On s'est tous promenés sur des plages, on a tous marché sur le sable, roulé sur des routes avec des paysages infinis. Et en fait, c'est ça qui a fait la force de son travail, c'est l'impact que ces tableaux produisent dans la pensée. C'est-à-dire qu'ils touchent quelque chose qui fait entrer en résonance notre propre vécu. Oui, il y a des images qui nous reviennent. Et ces images, il les instaure dans quelque chose qui leur donne une plus grande réalité par le fait qu'elles passent par le biais de la peinture. C'est ce qui fait la qualité de sa peinture, c'est sa capacité d'impact. Je crois que c'est le peintre dont des tableaux, on peut les conserver en mémoire avec une très grande précision dès qu'on les a vus, ne serait-ce qu'une seule fois.
Ah ben, j'ai de l'incertitude sur le monde, mais j'ai de l'incertitude sur ma peinture. L'incertitude sur moi, je ne suis qu'incertitude. oui. Ce que je sais, ce sont des choses assez élémentaires. Il y a une chose qui est ancrée dans moi et qui n'est pas une incertitude, c'est que il faut se battre avec la vie. Et ça, je l'ai ressenti très 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 jeune, j'ai compris. Très 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 vite, ça. Alors, il y a différentes manières de se battre. Mais si on se bat pas, c'est catastrophique, je trouve. Alors évidemment, il y a d'autres manières d'envisager, justement en disant que c'est justement la bataille qui fait que le monde est tellement pourri. Que c'est tellement ancré dans la vie même, on est si près des animaux, que si on veut faire l'ange, on risque de se casser la gueule encore plus.
Jacques Monory a traversé une époque où la peinture en France était quand même très peu considérée. Et effectivement, le fait que la peinture soit dépréciée, faut reconnaître, de son vivant, fait que il est passé un peu à côté de l'histoire contemporaine officielle, alors qu'il était un ami de Boltanski, il était un grand ami de Gazirovski, même génération que Daniel Buren. À mon avis, la raison est politique. Sa peinture n'est pas politiquement correcte parce qu'il ne dit jamais les choses là où on les attend. Ça, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, ne pouvant pas le mettre dans une case, ce qu'on aime bien faire, ne pouvant pas mettre un discours très linéaire sur sa peinture, finalement, ça l'a mis un peu à l'écart.
Je trouve en effet que les déplaceurs de virgules sont très légers, si je peux dire. C'est les déplaceurs de virgules qui prennent le pouvoir, en fait. Peut-être ça ne dure pas, ça ne dure jamais, tout tourne. Et en gros, c'est un peu ça, des commentaires sur des commentaires... Il commente autre chose.
Monory est resté fidèle à ce qu'il a découvert, au fond, dans les années 60. Et bien sûr, on peut lire entre les années 60 et les dernières années, une évolution, mais elle s'inscrit à l'intérieur d'une démarche qui qui est identifiable. Il n'y a pas des périodes où il part complètement ailleurs. Il va complètement ailleurs, mais quand il peint les ciels, il reste. On identifie un tableau de Monory tout de suite. Il n'y a pas de choses qui s'écartent de ça. Ce qui s'est passé, c'est que forcément les choses évoluent. Et le monde de l'art, par rapport à ce qu'il était il y a 50 ou 60 ans, il a énormément changé. La valeur d'amusement de l'art a pris une importance incroyable. La grande actualité de l'art aujourd'hui, c'est fun, qu'il soit fun. Que ce soit sur un aspect formaliste, ou que ce soit par des tas de clins d'œil, des tas de références à ceci ou à cela. Tandis que si on met Monory, ça, forcément, il y a quelque chose qui contraint celui qui voit le tableau. C'est comme au billard, paf, la bille, elle part vers le monde. Et avant de revenir vers vous, et peut-être que beaucoup de gens ont pas envie de ça. Et de toute façon, le choix des institutions de l'art en France, il s'est fait en direction de quelques artistes, et il s'est fait au détriment de plusieurs autres qui chantaient un autre air, quoi.
Ce qui est plus important pour moi, ce serait de rire. Mais ce rire dont je parle, c'est pas le rire de l'indifférence ou de l'aveuglement. C'est le rire de la connaissance. On a compris le système et on se marre. Plus personne ne peut vous atteindre. Vous êtes libre.
Il me semble comme ça que ça devait être un immense sensible. Parce que, justement, de faire de sa palette déjà, sa manière dont il aborde les thèmes, les femmes, les mises en situation. Pour moi, c'est un peintre, c'est pas parce qu'il peint une fleur ou qu'il met un détail étrange qu'il doit être sentimental. Je connais pas assez, mais je trouve que c'est quelqu'un, oui, qui a en tout cas une énorme, dans son œuvre, que je me souviens, une grande sensibilité humaine. Je dirais que c'est quelqu'un qui a aussi un grand respect de l'autre et qui devait aussi être un type extrêmement sensible, humainement, quoi. Ça, la manière dont il met en scène ses œuvres.
Il avait toujours des pirouettes pour évincer des questions qui pouvaient soit le flatter ou soit le mettre en avant. C'est quelqu'un qui aime les silences et qui ne vous met pas du tout mal à l'aise dans ses silences. C'est-à-dire que sa peinture, comme ses silences, font que, en fait, il vous invite à poursuivre ses réflexions qui sont silencieuses. Quand je lisais après le manuel d'Épictète ou Sénèque, il y avait comme une superposition des voix. C'était étonnant.
Oui, c'est très vieux. Non, ça, c'était à propos du tableau qu'on voit toujours derrière nous, qui n'est pas du tout fini, c'est le fond. Et alors, dessus, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est de Caroline Gunderold. Et cette dame dit « Une nostalgie était en moi qui ne connaissait pas l'objet de son désir. Et toujours je cherchais, et jamais rien de ce que je trouvais n'était ce que j'avais cherché. » À 26 ans, l'auteur de ces lignes se donna la mort en se poignardant, épuisé par la lenteur du monde.
Ses peintures le disent ça constamment. Quand on pense à l'histoire de sa vie, elle est écrite, enfin, elle est visualisée dans ce qu'il a fait. Donc c'est toujours l'affect qui a dicté ses peintures. Bon, effectivement, au tigre, à la rupture, au coup de fusil, enfin, tout ce qui lui est arrivé, à l'admiration pour certaines personnes ou qui mettait dans ses tableaux, aux enfants qu'il a mis dans ses tableaux, qui était son fils, qui était. Il l'a fait justement avec la fille de Bob. Enfin, ça a été. Son quotidien a été transposé. Donc, son affect était constant. Son romantisme, ça s'appelle romantisme. Mais avec romantisme, on voit toujours quelque chose de doux et rose. Mais c'est pas doux et rose, je veux dire, ça peut être noir.
Oui, ce n'est pas un peintre politique. Enfin, il n'aimait pas du tout. Il n'aurait pas aimé qu'on inscrive son œuvre dans une dimension politique. Mais je pense qu'en même temps, il détestait le bourgeois, sous toutes ses formes, quoi. C'était presque animal, comme un animal qui, quand il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, il réagit comme ça, il s'en va. Et c'était comme ça. Et donc le premier romantisme, il est un romantisme très simple. Celui qui veut pas de ça, celui qui veut pas de ce monde ordonné, de ce monde de capital, capitalisé, de confort, etc. Et donc aller ailleurs, aller voir ailleurs, etc. Et toutes les formes de l'ailleurs, y compris en allant du côté d'une révolte violente. Au fond, l'assassin allégorique, comme ça, le tueur allégorique qui traverse l'œuvre de Monory, c'est d'abord ce personnage qui veut pas rentrer dans le rang. Et donc, n'étant pas dans le rang, c'est aussi pour ça qu'il voulait pas être considéré comme un peintre politique, parce que malheureusement, très souvent, l'engagement politique fait qu'on entre dans un autre type de rang, mais c'est toujours des rangs, etc. Et donc, il y avait ça. Après, il y a quelque chose de plus profond, plus intéressant peut-être, qui est une relation effective à une pensée qui a été la pensée du romantisme allemand et la façon dont certains de ces romantiques ont traduit leur pensée fondée sur une relation tellement intime avec le monde, la nature, les autres êtres, etc., tellement intime qu'elle en devenait impossible, quoi. C'est comme si on s'approche de trop près, on finit par ne plus voir. Et on peut considérer le romantisme comme une incapacité à régler la distance. Alors que le classicisme, on pourrait justement le considérer, d'ailleurs c'est aussi sa grandeur, hein, d'une certaine manière, quand on regarde, c'est quelque chose qui accepte ou désire de se tenir à distance. Le romantique, il n'est pas capable de ça. Et ça, je pense, ça fascine Monory. C'est pour ça que c'est un romantisme héroïque. Donc évidemment, les personnages auxquels il avait le plus de fascination, c'est Heinrich von Kleist, c'est Caroline von Günderode, ces gens qui, d'une certaine manière, ils réglaient tellement mal la distance qu'ils finissaient par exploser, se détruire. Et là, il y a quelque chose de très profond. Après, on pourrait trouver d'autres types de relations, mais Monory, c'était pas l'aspect spéculatif, par exemple, du romantisme de Iéna. C'est pas véritablement ça qui l'intéressait, même si on pourrait trouver des liens dans le rapport qu'il avait avec la nature, parce que bizarrement, malgré son usage des couleurs artificielles, malgré son rapport à la ville, malgré son rapport à l'Amérique, etc., il y a une espèce de basse continue d'une nature perdue qui joue un rôle assez grand et dont les animaux, d'ailleurs, que ce soit les tigres lointains ou les chiens proches et ou les chats, sont les intercesseurs.
Oui, il n'était pas impressionniste, et lui c'était un romantisme noir, enfin c'était un romantisme, parce que c'est aussi noir. Et il en a peint des fleurs, et il a peint des ciels, il a peint, bon, même si les ciels étaient tourmentés, même s'il y avait des vols d'oiseaux, c'est d'un romantisme total. Mais ça parle du monde, c'est une évocation. C'était un symbole, Jacques, d'une certaine manière, ne serait-ce que par son allure, cette continuité dans le personnage, ce qu'il faisait. D'une certaine manière, même si on ne connaissait pas Jacques, par sa peinture, on le connaissait. Donc, c'est un héros.
Ah non, je ne suis jamais devenu paranoïaque. Simplement, je suis devenu assez angoissé. Quelquefois... J'étais là dans ma voiture climatisée sur une route vide au milieu d'un désert et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? When I was 35, ça n'a pas de sens. It was a very
good year. Toute une vie, Jacques Monory, un peintre sentimental, avec Jean-Christophe Bailly, Sarah Moon, Sol Ray, Valérie Favre, Laurence Dist, Philippe Marin, Bernard Monino et la voix de Jacques Monory. Merci à Paul Monory. Recherche INA, Inès Barja, Christelle Rousseau, Anne Brulant. Lecture Pauline Jambet. Attaché de production Daphné Abgral. Collaboration Julia Martin. Coordination Christine Bernard, réalisation Laurent Polleret, mixage Philippe Mercher, un documentaire de Marc Vaudet. It poured sweet and clear. It was
was a very good year.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission quand vous le voulez sur franceculture.fr, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Juliette Drone.